Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Avec nos grandes voix dans ce studio ce lundi soir. Bonsoir Charles Villeneuve.
Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir Gérard Carrero. Bienvenue à vous également.
Oh, merci. Ouais. Bonsoir.
Et Karl Mehus est avec nous également ce soir. Bonsoir.
Bonsoir. Karl,
du Figaro Magazine, bien sûr. Évidemment, vous, auditeurs, être invités à nous contacter au 3921, nous poser vos questions, nous faire vos commentaires. De quoi parle-t-on? Évidemment, de ce match ce soir, match retour France-Turquie. On sera aux abords du stade à 2h du coup d'envoi dans un petit instant pour voir un petit peu comment l'ambiance évolue. Mais d'abord, parce que vous êtes évidemment aussi un homme de football, Charles Villeneuve, il fallait l'annuler, il fallait la boycotter, il fallait la décaler, cette
non,
rencontre.
Non, boycotter, annuler, ça ne se fait pas comme ça. D'abord, premièrement, ça dépend de l'UEFA. Il faut l'accord de l'UEFA et bien sûr des autorités publiques, politiques, françaises. Il faut toujours un accord de deux partenaires. Vous n'êtes pas seul dans ces affaires-là. L'annuler, moi, je suis plus étonné par le fait que la Fédération française qui contingente le nombre de places laisse venir 40 000 supporters turcs, notamment d'Allemagne, bien sûr, puisque vous savez qu'il y a plus de 5 millions de Turcs, de travailleurs turcs en Allemagne. Évidemment, c'est une réserve importante. Et en général, quand les Turcs sont là en masse, le stade devient un brasier. On l'a vu quand les Français sont allés, d'ailleurs, se faire secouer, manger, digérer en Turquie et battu 2-0.
Alors évidemment, le contingent niveau police et force de l'ordre, il a été augmenté au fil des heures. On est à 1300 policiers et gendarmes ce soir au Stade de France. Est-ce que ce sera suffisant? Karl Mehus, Gérard Carrérou, Charles ne nous dit pas finalement. Charles, vous ne voulez pas nous dire s'il fallait l'annuler ou le boycotter?
Non, moi je
vous
pense
nous dites, vous
que
vous dites plutôt non.
D'abord, premièrement, on ne peut pas l'annuler 3 heures avant ou dans la dernière journée. Il fallait se réveiller avant.
Avant, il y a 24 heures. Avant. Mais ça, ça aurait pu être possible. Karl, on aurait pu. On connaît la situation. On connaît la situation kurde.
Oui, mais on ne peut pas le faire. Comme le dit Charles Villeneuve, c'est pas la France toute seule qui peut décider d'annuler. Si on l'annule, à ce moment-là, on considère que sur le plan sportif, c'est ce que l'UEFA dira, et bien à ce moment-là, c'est match gagné pour la Turquie. Alors, c'est pas très satisfaisant, parce qu'au fond, du coup, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne conteste pas ce qu'ont fait les Turcs face aux Albanais, et deux, on perd sur le terrain. Donc non, je pense que la meilleure réponse, c'est une réponse sportive, ce qu'il faut donner.
Il faut gagner.
Bah oui,
il faut gagner, il faut leur mettre la pâtée, en quelque sorte, Gérard Carrero.
Ils montrent qu'ils n'ont pas eu raison de politiser le sport.
C'est
pardon.
Ça. Oui. Mais les Bleus auraient pu refuser de jouer. C'est déjà arrivé.
Non. Enfin bon, écoutez, on est à une heure, à deux heures. Deux petites heures du match, de toute façon. Ce matin, on pouvait encore peut-être se poser la question. Là, le match sera, en tout cas, il y aura... lancement d'un match.
Exactement.
Est-ce qu'il fallait, alors si on s'était posé
anticiper,
la question,
alors.
Est-ce qu'il fallait, de manière anticipée, dire « c'est pas possible dans le climat actuel, les Turcs massacrent les Kurdes qui étaient nos alliés fidèles, qui ont laissé leur sang dans cette guerre, etc. » Éventuellement pour nous préserver contre les terroristes islamiques. Au nom de ça, est-ce qu'il fallait... Bon, moi je dirais non. On ne peut pas systématiquement mélanger
politique et culture.
Je pense même qu'il faut garder quand même le sport. Mm. C'est quand même quelque chose...
Oui. Sauf qu'il y a quand même le salut militaire de l'équipe de football.
Oui, mais attendez, alors laissez-moi finir
bien
ma phrase.
Voilà. Est-ce qu'il faut des lignes rouges?
Je la finis de manière rapide. Bien sûr qu'il faut une ligne rouge. S'il y a provocation sur le terrain, moi à 9h moins le quart, je vais regarder s'il y a provocation, c'est-à-dire s'il y a véritablement 40 000 personnes qui se déchaînent contre la Marseillaise, qu'on n'entend même pas la Marseillaise, je pense qu'il faut arrêter le match. S'ils font leur salut militaire néo-fasciste turc à la manière d'eux, je pense qu'il faut arrêter le match.
Mais
voilà, c'est simple.
Vous savez, simplement, il faut se souvenir que durant toute la guerre froide, notamment entre le bloc occidental et le bloc soviétique, on a joué tous les matchs contre l'Union soviétique. Et la tension était beaucoup plus forte qu'elle n'est encore aujourd'hui. Maintenant, cela étant, l'opération s'est mélangée, le sport, avec l'opération militaire déclenchée par les Turcs. Et ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent.
Juste, Karl Mehus, votre avis, la ligne rouge, quelle est-elle ce soir?
La ligne rouge, elle est... j'en vois pas, moi, si vous voulez, parce qu'ils vont... De toute façon, la Marseillaise va être sifflée. Ils l'ont fait au match aller. Ils vont le faire. Donc, il faut peut-être que s'il y a Roxana Maracineanu Anou qui est là...
C'est la seule représentante du
gouvernement. Peut-être qu'à ce moment-là, elle doit quitter la tribune et qui est... C'est ce qui s'était passé à d'autres occasions.
On va voir dans un instant si ça ne fait pas un peu court comme réponse pour un pays comme la France, pays des droits de l'homme. Juste après cela, et appelez-nous au 3921.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Karl Meus du Figaro Magazine. Et toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas à les interpeller au 39-21, 50 centimes la minute. Et sur Twitter, hashtag Europe 1. Fallait-il boycotter ou interdire ce soir la rencontre France-Turquie? Ça a fait débat, évidemment. Et vous, auditeurs, vous nous interpellez également comme Bertrand. Bonsoir à vous, Bertrand. Vous nous appelez de Clermont-Ferrand. Quelle est votre position, vous, sur cette rencontre?
Alors, il y a deux, bonsoir à tous. Il y a deux positions. La première, elle est politique. La deuxième, elle est sportive. D'un point de vue politique, depuis quelques jours, on n'entend parler que de l'attaque turque sur la communauté kurde. On n'a aucune information dans l'autre sens. Quelle part de responsabilité auraient les Kurdes? On n'entend strictement rien. Donc, il faudrait creuser un peu de ce côté-là. Maintenant, moi, pour la partie sportive, je sature un peu d'entendre des gens nous dire il y a le sport d'un côté, il y a la politique de l'autre, il ne faut pas mélanger le sport et la politique. En 1936, Jesse Owens devant Adolf Hitler, c'était du sport et de la politique. En 1968, Tommy Smith et John Carlos au JO de, et le point levé au JO de Mexico, c'est du sport et c'est de la politique. Le boycott des Jeux Olympiques de Moscou, c'est du sport, c'est de la politique. Les attentats à Munich en 1974, c'est du sport et de la politique. Donc de toute façon, 72. Ça fait bientôt un siècle que le sport et la politique font ménage. Je ne veux même pas dire font bon ménage ou font mauvais ménage. Font ménage, c'est comme ça. Si j'étais au Stade de France ce soir, pendant l'hymne turc, ne sachant pas ce que les Kurdes ont fait et ce que les Turcs ont fait, autrement que par trois infos rapides passées dans les médias, eh bien, soit je me tairais, soit je me lèverais et j'applaudirais. C'est-à-dire que quand il y a une minute de silence, qu'on se dit qu'elle ne sera pas respectée, alors les gens applaudissent maintenant. Vous savez, c'est la minute d'applaudissement. Eh bien, le Stade de France, ce soir, pendant l'hymne turc, les Français n'ont qu'à se lever et applaudir, non pas l'hymne turc, mais pour couvrir l'hymne turc, si on considère que les Turcs sont responsables à 100% de ce qui a été fait.
Merci de votre analyse, Bertrand. Vous avez entendu le silence dans le studio.
Je me permets de répondre à Bertrand sur les Kurdes. Les Kurdes, ils ont un défaut majeur pour les Turcs, c'est que les Kurdes, depuis 70 ans, ils se battent pour avoir, ils se battent à l'intérieur de la Turquie ou dans d'autres champs de bataille pour avoir leur État, pour avoir une forme d'autonomie. Alors, à la faveur de la guerre du Golfe, ils avaient essayé, etc. Ils avaient eu un espace où on ne pouvait plus les attaquer par les airs. Les Américains avaient fait et les Alliés. Bon, ils veulent avoir un jour un État. Et désespérément, mais pour l'instant, ils n'avaient, me semble-t-il, ils avaient attaqué Daesh, mais hormis Daesh, ils n'avaient pas pris une part à une guerre contre les Turcs. Mais les Turcs, eux, disent, on ne veut pas qu'ils aient un État. À partir du moment où ils ont maintenant un espace qu'ils occupent depuis un certain nombre d'années, eh ben ils vont nous faire le coup d'un État et ils vont proclamer un jour un État. Donc, il faut les annihiler.
Oui, non mais Charles, juste deux précisions. Les Turcs sont ballottés entre quatre pays, je ne vais pas rappeler lesquels de toute façon, depuis depuis 1920, c'est-à-dire 99 ans exactement. Et ensuite, l'attentat, de Septembre Noir, contre les athlètes israéliens à Munich, c'est le 5 septembre 72. C'était juste une précision en passant. Mais le point de vue de monsieur
Bertrand de Clermont-Ferrand
est quand même intéressant. Oui, et c'est vrai que la politique s'est souvent mêlée du sport, il a raison. Mais pour autant, je ne pense pas que ce soit une bonne chose.
On va se retrouver dans un petit instant. Je voudrais qu'on regarde de près l'élection de Christian Jacob quand même. 63% des voix dès le premier tour, cette élection. Karl Meus, vous avez observé ça dans le détail, j'imagine. Il succède à Laurent Wauquiez. On va analyser ça. Un chef bien élu, est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère pour les Républicains? Vous nous dites ça juste après la pause.
Et votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy. Jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h les grandes voix ce soir. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Karl Meus du Figaro Magazine et toutes vos réactions en direct. Ça se passe au 39-21.
Karl Meus, je vais commencer avec vous parce que Christian Jacob, élu dès le premier tour avec 63% des voix hier soir à la tête des Républicains, il succède ainsi à Laurent Wauquiez. Ça y est, c'est un nouveau départ pour les Républicains. C'est quand même près des deux tiers des quelques 60 000 votants.
Voilà. Donc ça, c'est le verre à moitié plein.
C'est ça.
Il fait une élection 62% au premier tour. C'est quand même bien le moins, on serait tenté de dire. sachant qu'il était soutenu par quasiment tous les barons, qu'il avait eu 11 000 parrainages. Donc, pour lui, la mission, c'était passer dimanche ou alors à ce moment-là, il rentrait à Provins et on passait à autre chose. Voilà, changer de vie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le côté moins plein du verre, c'est 63 000 votants, c'est quand même pas non plus gigantesque. Alors, il claironne en disant c'est mieux qu'espéré, parce que pendant toute la campagne, ils avaient dit on sera entre 40 000 et 50 000, mais ça, c'est un classique de la politique de minimiser pour ensuite dire, voyez, il y a plus de monde que prévu. Mais enfin, 63 000 votants aujourd'hui, c'est quand même pas énorme. Et deux, la question, c'est pourquoi faire ?
Bah oui.
Parce qu'on a là un président de parti qui s'est engagé à ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire quelle va être son autorité.
Alors, Gérard Carrérou, ça va être quoi son autorité ? Il y a quand même des choses. Karl Méus, c'est un peu dur. Il y a quand même des choses. C'est peut-être un rassembleur, c'est un Chiracien de naissance. Il y a quand même des choses positives à...
Il y a deux façons de le regarder, cet homme. Ou bien on le regarde avec un air un peu condescendant, en disant c'est un intermittent du spectacle politique. Il est là pour chauffer la place pour quelqu'un qui est plus d'envergure que lui. Ça, c'est ce que pensent pas mal de gens.
Ils
l'écrivent et c'est ce qui s'est dit pas mal.
C'est ce que je pense.
Moi.
Ou alors on dit finalement, avec sa tête de brave homme, qui est sympathique, plutôt sympathique, on peut pas dire le contraire. Sympathique, il a été ministre de Chirac, il a bourlingué un peu. Mais il a été toujours un homme relativement avec les mêmes convictions. C'est pas un type qui a tourné sa veste, etc. Donc on peut dire peut-être qu'il fera... Alors son but, et je le dis en un mot, son but est simple, et c'est il répond à la question, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a de la place, comme on regarde quand on monte dans un wagon du métro, est-ce qu'il y a de la place pour s'asseoir ? Est-ce que j'ai de la place pour asseoir mon parti ? S'il arrive à se faire une petite place pour son parti, il aura gagné.
Bah voilà. Alors Charles, avait dit, c'est pas l'homme providentiel, ça on a compris.
Oui, d'accord, Non mais c'est vrai qu'il n'a pas été épuisé par les idées, mais il n'est pas épuisé aussi par l'ego. Sincèrement, parce qu'il y en avait d'autres qui l'ont été, qui nous l'ont démontré. Oui. Juppé, Fillon, etc.
Mais c'est peut-être ça qui fera la différence.
Mais justement,
peut-être
moi je pense que sa mission,
le collectif.
On disait tout à l'heure, et moi j'étais d'accord avec ça, il est là pour chauffer la place, il est là pour rebâtir, si vous voulez, le maillage qui existe, parce qu'il y a une vraie base des Républicains dans le pays. D'abord, on le verra aux prochaines municipales, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un parti très fort sur le plan municipal. Et je pense qu'il gardera quasiment toutes ses places. Il ne faut pas oublier que c'est le premier parti à l'Assemblée nationale d'opposition, 104 députés, et le premier 126 sénateurs au Sénat. Il ne faut jamais oublier ça. Donc il est là pour passer par les territoires et préparer la place pour un éventuel François Baroin. C'est-à-dire qu'il fait partie, Baroin aussi, des bébés Chirac. Et c'est ce terroir-là, il est resté pas intact, mais quand même...
Pas trop abîmé.
Je trouve.
Alors, on va voir ce que nous en dit Serge de La Rochelle. Bonsoir à vous, Serge.
Bonsoir.
Vous avez été surpris par ce résultat hier soir ?
Absolument pas. Ben, c'était l'homme qu'il fallait élire. C'est un homme de consensus qui s'est distingué par un long travail parlementaire, sérieux. C'est un garçon qui n'a jamais fait de vagues. Avant, il était dans le syndicalisme agricole. Je crois que c'est la personne qu'il fallait. Et ben, son principal travail, ça va être de remettre l'église au milieu du village et de faire revenir les gens à la maison.
Oui, mais alors justement, la question, je vous la pose à vous, Serge, et à vous tous, Karl Méus, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. La question, c'est comment faire revenir l'église au milieu du village ? Quand on voit qu'ils sont inaudibles, les Républicains sur l'écologie, quand on voit que sur les sujets de société, ils ne le sont pas tellement plus, on fait comment ? On a quoi comme marge de manœuvre ? Gérard Carrérou le disait.
Par exemple, sur les problèmes de la sécurité, je pense qu'en en France actuellement, il y a d'énormes problèmes au niveau de la sécurité. En tout cas, le ressenti des gens, c'est qu'on n'est pas dans un pays en sécurité. Ils l'ont vu à cause des attentats, ils l'ont vu à cause, de certaines manières, des gilets jaunes, par des excès. Ils l'ont vu, ils le voient dans la vie quotidienne. C'est quelqu'un, or Macron ne leur a pas donné la sécurité, pas plus. Beaucoup de gens pensent que Marine Le Pen ne leur donnerait pas non plus. Et ils se disent, il faudrait des gens, des républicains, d'autorité, qui se mettent là et avec un certain nombre d'objectifs.
Oui, mais c'est compliqué de ne pas faire du copier-coller avec le Rassemblement National. Serge, je vous donne la parole et Karl Méus.
Oui, non, mais le souci, effectivement, on se heurte toujours à la même problématique, à savoir qu'il y a un déficit d'idées, je dirais même presque un déficit de projets. C'est pour ça qu'il est important de faire revenir les gens comme Xavier Bertrand, comme...
Ça, c'est pas gagné.
Ça, c'est des gens qui ont des idées, qui ont des projets, et effectivement, la droite souffre à l'heure actuelle, même si le socle est solide, au niveau municipal, c'est vrai.
On le verra dans 5 mois.
Merci, on le verra, beaucoup. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas d'idée.
Merci beaucoup, Serge. Il n'y a pas d'idée, voilà. On se heurte encore à la même chose, c'est que quand il y a des idées, enfin, ou en tout cas, quand il y a des sujets, ils n'y vont pas, et sinon, il n'y a pas d'idée.
Non, mais Serge a entièrement raison. C'est-à-dire que le travail de Christian Jacob, ça va être d'essayer de rassembler. La chance que vont avoir les Républicains, c'est qu'effectivement, lui n'a pas coupé les ponts, ni avec Xavier Bertrand, ni avec Valérie Pécresse, qui sont partis des Républicains. Mmh. Il essaye, il va essayer en tout cas, de leur parler, de les faire revenir. La difficulté qu'il va avoir, à laquelle il va se confronter, c'est que l'élection présidentielle oblige Valérie Pécresse et Xavier Bertrand à se différencier de ce que lui va dire. Et on va se retrouver avec un problème. Si vous regardez cyniquement le paysage tel qu'il se dessine pour 2022, si vous voulez, la République En Marche, ils ont un candidat déterminé. Oui. OK, il y en a un, c'est Emmanuel Macron. Le Rassemblement National, pas de problème. Il y en a une, c'est Marine Le Pen. La France Insoumise, on peut imaginer que ça va être sans difficulté Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez à la droite.
Ah, c'est ça.
Ah ben là, vous avez François Baroin, Charles Villeneuve l'a dit, mais Valérie Xavier Pécresse, Bertrand nous a dit qu'il y pensait.
Valérie Pécresse
y pense. Bruno Retailleau s'est dit pourquoi pas moi.
Donc, pléthore de candidats. Donc, si en tout cas, il n'y a pas la malédiction qui pèse sur les chefs de la droite, enfin, si cette fois, avec Christian Jacob, parce qu'il est moins charismatique, il est moins César, on n'est pas sorti d'affaire, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a pléthore de candidats. Merci à tous les trois. Les grandes voix qui reviennent demain, ici même endroit, même heure. Merci à tous. Europe 1.